18. A. William Samuels, procureur du comté. Rodney Geller, chef de la police de Flint City. Richard Doolin, shérif du comté de Flint. Inspecteur Ralph Anderson, police de Flint City. 2. Lieutenant détective Yunel Sablo, police d'État, poste 7. Date, 13 juillet. Sujet, gare Vogel de Doubrot. À la demande du procureur Samuels et de l'inspecteur Anderson, je suis allé à la gare de Vogel à 14h30, à la date indiquée ci-dessus. Vogel est la principale gare de transport terrestre pour tout le sud de l'État, puisqu'elle accueille trois grandes compagnies de cars, Greyhound, Trailways et Midstate, ainsi que les trains Amtrak. On y trouve également les loueurs de voitures habituels, Hertz, Avis, Enterprise, Alamo. Étant donné que toutes les zones de la gare sont protégées par des caméras de surveillance, je me suis rendu directement au bureau de la sécurité où j'ai été reçu par Michael Camp, le responsable. Il m'attendait. Les bandes de surveillance sont conservées 30 jours et l'ensemble est informatisé. J'ai pu ainsi visionner tout ce qui a été filmé par un total de 16 caméras depuis le soir du 10 juillet. D'après M. Clinton Ellenquist, le standardiste de la société de taxi Flint City Cab, qui travaillait ce soir-là, Willow Rainwater, une de leurs employées, a appelé à 21h30 pour annoncer qu'elle avait déposé son client. Le Southern Limited, le train que le suspect disait vouloir prendre, d'après Mme Rainwater, est entré en gare à 21h50. Les passagers ont débarqué au quai 3. Les passagers à destination de Dallas-Fort Worth ont été autorisés à monter à bord 7 minutes plus tard, soit à 21h57. Le Southern Limited est reparti à 22h12. Les heures sont exactes car toutes les arrivées et tous les départs sont réglés et enregistrés par ordinateur. Le directeur de la sécurité, Michael Camp, et moi avons visionné les images des 16 caméras, en commençant à 21h le 10 juillet, pour être sûr, jusqu'à 23h, soit environ 50 minutes après le départ du Southern Limited. J'ai consigné tous les détails sur mon iPad, mais compte tenu de l'urgence de la situation, soulignée par le procureur Samuels, je me contente d'un résumé dans ce rapport préliminaire. 21h33. Le suspect pénètre dans la gare par la porte nord, point de dépose habituel des taxis et entrée utilisée par la plupart des voyageurs. Il traverse le hall principal. Chemise jaune, jean. Il n'a pas de bagages. On voit nettement son visage pendant 2 à 4 secondes lorsqu'il lève les yeux vers la grosse horloge. Photo transmise par mail au procureur Samuels et à l'inspecteur Anderson. 21h33. Le suspect s'arrête au kiosque situé au centre du hall. Il achète un livre de poche et paie en liquide. Impossible de lire le titre du livre et le vendeur ne s'en souvient pas, mais on peut sans doute l'obtenir si besoin est. Sur ce plan, on voit la boucle de ceinture en forme de tête de cheval, photo transmise par mail au procureur Samuels et à l'inspecteur Anderson. 21h39. Le suspect ressort de la gare dans Montrose Avenue, au sud. Bien qu'ouverte au public, cette porte est principalement utilisée par les employés de la gare, étant donné que le parking du personnel se trouve de ce côté du bâtiment. Deux caméras surveillent ce parking. Le suspect n'apparaît pas sur les images, mais Camp et moi avons détecté une ombre fugitive qui pourrait correspondre à notre homme et qui se dirige vers une voie de service sur la droite. Le suspect n'a pas acheté de billet pour le Southern Limited, ni en liquide à la gare, ni par carte de crédit. Après plusieurs visionnages des images du quai 3, nettes et, selon moi, complètes, je peux affirmer avec une quasi-certitude que le suspect n'est pas retourné dans la gare pour prendre ce train. J'en conclus que le trajet en taxi jusqu'à Doubrot était une tentative pour créer une fausse piste et égarer les enquêteurs. Selon moi, le suspect a regagné Flint City avec l'aide d'un complice ou en stop. Il se peut également qu'il ait volé une voiture. La police de Doubrot n'a enregistré aucune plainte pour vol de véhicule dans les environs de la gare le soir en question. Mais, comme l'a fait remarquer Camp, le responsable de la sécurité, une semaine ou plus peut s'écouler avant que soit signalé un vol de voiture sur le parking longue durée. Les images de surveillance du parking longue durée sont disponibles et pourront être visionnées en cas de demande, mais elles ne couvrent pas toute la zone, tant s'en faut. En outre, Camp m'a informé que ces caméras, souvent en panne, devaient être remplacées prochainement. Voilà pourquoi il me semble préférable, dans l'immédiat, d'orienter l'enquête vers d'autres domaines. Respectueusement, lieutenant-détective Yunel Sablo. Voir pièce jointe. 19. Owigold serra la main de Samuels et de Ralph Anderson. Puis, par le miroir sans teint, il observa Terry Maitland, avec son maillot des Golden Dragons et sa casquette porte-bonheur. Il se tenait bien droit, tête haute, les mains croisées sur la table. Aucun tressaillement, aucun gigotement, aucun coup d'œil inquiet à droite et à gauche. Ralph dut reconnaître que Terry n'offrait pas l'image de la culpabilité. Gold se tourna vers Samuels. « Je vous écoute, » lui dit-il, comme s'il invitait un chien à faire un numéro. « À ce stade, il n'y a pas grand-chose à dire, Howard. » Le procureur porta la main à l'arrière de son crâne pour aplatir son épi, qui resta en place quelques secondes seulement, avant de rebiquer. Ralph repensa alors à une réplique d'Alfalfa qui les faisait rire, son frère et lui, quand ils étaient enfants. On ne rencontre qu'une fois dans sa vie un ami comme on n'en rencontre qu'une fois dans sa vie.
Si ce n'est qu'il ne s'agit pas d'une erreur, ajouta Samuels. Et non, nous ne sommes pas devenus cinglés.
Que dit Terry?
Pour l'instant, rien, répondit Ralph.
Gold se tourna vers l'inspecteur. Les verres de ses lunettes rondes grossissaient légèrement ses yeux bleus pétillants.
Vous n'avez pas compris ma question, Anderson. Je sais bien qu'il ne vous a rien dit ce soir. Il n'est pas idiot. Je veux parler du premier interrogatoire, et je vous conseille de tout me dire car lui me le dira.
Il n'y a pas eu de premier interrogatoire, déclara Ralph. Il n'avait aucune raison d'éprouver de l'embarras, compte tenu du dossier qu'ils avaient monté en seulement 4 jours, et pourtant, il se sentait mal à l'aise. Notamment parce que Howie Gold l'appelait par son nom de famille, comme s'ils n'avaient jamais bu des coups ensemble au Wagon Wheel, en face du tribunal du comté. Il éprouvait une envie irrépressible et ridicule de dire à Howie « Ne me regardez pas, regardez plutôt le type à côté de moi, c'est lui qui a le pied sur l'accélérateur.
« Hein ?» s'exclama l'avocat.
« Attendez voir !» Gold fourra les mains dans ses poches de pantalon et se balança d'avant en arrière. Ralph l'avait vu faire ça bien souvent au tribunal, et il se prépara à encaisser. Subir un contre-interrogatoire de la part de Howie Gold à la barre des témoins n'était jamais une expérience agréable. Pourtant, Ralph ne lui en tenait pas rigueur, cela faisait partie du jeu.
« Vous êtes en train de me dire que vous avez arrêté Terry devant 2000 personnes sans lui avoir donné l'occasion de s'expliquer ?»«
Vous êtes un très bon avocat, » répondit Ralph, « mais Dieu lui-même ne pourrait pas tirer Maitland d'affaire sur ce coup-là. » Par ailleurs, il y avait peut-être 1 200 personnes au match. 1 500 au maximum. Estelle Barga ne peut pas en contenir 2 000. Les gradins s'écrouleraient. Gold ignora cette piètre tentative pour détendre l'atmosphère. Il observait Ralph comme s'il avait devant les yeux une nouvelle espèce d'insecte.
N'empêche, vous l'avez arrêté dans un lieu public, au moment où, sans doute, il allait connaître l'apothéose de...
L'apo-quoi ? Demanda Samuels. Tout sourire. Gold ignora cette remarque également. Il continuait à observer Ralph.
Vous auriez pu installer une présence policière discrète autour du terrain et l'arrêter alors qu'il rentrait chez lui. Mais vous êtes intervenu devant sa femme et ses filles. C'était forcément délibéré. Qu'est-ce qui vous a pris? Quelle mouche vous a piqué, nom d'un chien?
Ralph sentit son visage s'enflammer encore une fois.
Vous voulez vraiment le savoir, maître?
Ralph, intervint Samuels sur un ton de mise en garde. Il posa la main sur le bras de l'inspecteur, celui-ci le repoussa d'un geste.
« Ce n'est pas moi qui l'ai arrêté. J'avais pris 2 agents car je craignais de lui sauter à la gorge et de l'étrangler, ce qui aurait donné un peu trop de travail à un avocat intelligent de votre genre. »
Il avança d'un pas afin de pénétrer dans l'espace de Gold et l'obligea à cesser ce balancement d'avant en arrière.
« Maitland a enlevé Frank Peterson et l'a emmené à Ficky's Park. Là, il l'a violé avec une branche avant de le tuer. Vous voulez savoir comment il l'a tué ?»«
Ralph, c'est une information confidentielle !» s'étrangla Samuels. Ralph poursuivit sur sa lancée.
« Le premier rapport d'autopsie semble indiquer qu'il a égorgé le gamin avec ses dents. Peut-être même qu'il a avalé des morceaux de chair, vous entendez ? Et tout ça l'a tellement excité qu'il a baissé son froc et balancé son sperme sur les cuisses du gamin. C'est le meurtre le plus répugnant, le plus infâme, le plus atroce qu'on verra jamais. Dieu nous en préserve. Sans doute qu'il préparait son coup depuis longtemps. Ceux d'entre nous qui étaient sur place ne sont pas prêts de l'oublier. Et c'est Terry Maitland qui a fait ça. Coach T. Il n'y a pas si longtemps, il posait ses sales pattes sur mon fils pour lui montrer comment tenir une batte. Il vient de me le dire, comme si cela était censé le disculper ou je ne sais quoi.
Gold ne regardait plus Ralph comme un insecte bizarre. Son visage affichait une sorte de stupéfaction. On aurait dit qu'il venait de tomber sur un objet abandonné par des extraterrestres.
Ralph s'en fichait. Il était au-delà de ça.
« Vous avez un fils, vous aussi, non ? »
demanda-t-il. « Tommy, c'est bien ça ?
N'est-ce pas pour cette raison que vous avez commencé à entraîner les juniors avec Terry, parce que Tommy jouait au baseball ?
Il a tripoté votre fils aussi, et maintenant vous allez le défendre ?»
Samuels intervint de nouveau.
« Anderson, fermez-la, nom de Dieu !»
Gold avait cessé de se balancer d'avant en arrière, sans céder le moindre pouce de terrain pour autant. Et il continuait à poser sur Ralph le même regard chargé d'un étonnement quasi anthropologique.
« Vous ne l'avez même pas interrogé, » murmura-t-il.
« Même pas.
Je n'ai jamais, jamais... »«
Oh, arrêtez !»
le coupa Samuels avec une jovialité forcée.
« Vous avez tout vu ?
Oh oui.
Et même deux fois.
Je désire m'entretenir avec mon client maintenant, » déclara Gold sèchement.
« Alors fermez votre foutu micro et tirez le rideau. »
« Soit, » dit Samuels, « vous avez un quart d'heure et ensuite on réplique, pour voir si le coach a quelque chose à nous dire. »«
Une heure, monsieur le procureur. »«
Une demi-heure. Ensuite, soit on recueille ses aveux, ce qui pourrait faire la différence entre la perpétuité à McAllister et l'ajection, soit on l'envoie en cellule jusqu'à la lecture de l'acte d'accusation lundi. À vous de décider. Mais si vous pensez que nous avons agi à la légère, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. »
Gold gagna la porte. Ralph passa sa carte magnétique devant la serrure. Il écouta le bruit sourd du double verrou qui s'ouvre, puis retourna derrière la glace pour regarder l'avocat entrer dans la salle d'interrogatoire. Samuel se raidit en voyant Maitland se lever et marcher vers Gold, les bras tendus. Mais son expression trahissait du soulagement et non pas de l'agressivité. Il étreignit Gold, qui lâcha sa mallette pour l'enlacer à son tour.
« N'est-ce pas attendrissant ?» ironisa Samuels.
Gold se retourna comme s'il avait entendu cette réflexion, malgré le miroir, et il montra du doigt la petite lumière rouge de la caméra.
« Éteignez-moi ça !»
Sa voix retentit dans le haut-parleur.
« Coupez le son aussi, et tirez le rideau !»
Les commandes se trouvaient sur une console murale qui accueillait également les systèmes d'enregistrement audio et vidéo. Ralph abaissa les interrupteurs. La lumière rouge de la caméra installée en hauteur dans un coin de la salle d'interrogatoire s'éteignit. Il adressa un signe de tête au procureur, qui tira le rideau. Ce bruit raviva un souvenir désagréable dans l'esprit de Ralph. À trois reprises, avant l'arrivée de Samuels, il avait assisté à des exécutions à la prison de McAllister. Un rideau semblable, peut-être fabriqué par la même société, coulissait devant la longue vitre qui séparait la chambre d'exécution de la salle réservée au public. Il s'ouvrait dès que les témoins entraient et se refermait dès que le condamné était déclaré officiellement mort, en produisant un grincement identique.
« Je vais manger un hamburger et boire un soda en face, chez Zonies, » annonça Samuels. « J'étais trop nerveux pour avaler quoi que ce soit. Vous voulez quelque chose ?
Je prendrais bien un café. Sans lait, un seul sucre.
Vous êtes sûr ? J'ai déjà goûté à leur café. Ce n'est pas par hasard qu'on appelle ça la mort noire.
Je cours le risque.
Ok, je reviens dans un quart d'heure. S'ils finissent avant, ne commencez pas sans moi. »
Aucun risque. Pour Ralph, c'était Bill Samuels qui tenait les rênes maintenant. À lui les lauriers, si tant est qu'il y en ait à gagner dans cette sale affaire. Des chaises étaient alignées de l'autre côté du couloir. Ralph choisit la plus proche de la photocopieuse qui ronflait doucement dans son sommeil. Les yeux fixés sur le rideau, il se demandait ce qu'était en train de raconter Terry Maitland là derrière. Quel alibi abracadabrant il essayait de faire gober à son co-entraîneur. Il se surprit à penser à l'imposante amérindienne qui avait chargé Maitland dans son taxi devant le Gentleman Please pour le conduire à la gare de Dubrow.
« J'entraîne une équipe de basket au YMCA. Des équipes mixtes en théorie, mais il y a surtout des garçons. Maitland venait souvent.
Pas tous les samedis, mais presque. Et il s'installait dans les gradins avec les parents pour voir les gamins jouer. Il m'a raconté qu'il recherchait des joueurs de talent pour son équipe de baseball de la Little League, avait-elle dit. Elle connaissait Maitland, et c'était sans doute réciproque. Compte tenu de sa corpulence et de son appartenance ethnique, ce n'était pas une femme qu'on oubliait facilement. Pourtant, dans le taxi, il l'avait appelée « Madame ». Pourquoi ? Parce que même s'il connaissait son visage, il avait oublié son nom. Possible. Mais Ralph n'aimait pas trop cette explication. Willow Rainwater, ce n'était pas un nom qui s'oubliait facilement, là non plus. « Bah, il était stressé », dit-il à voix basse en se parlant à lui-même ou à la photocopieuse endormie. Et puis... Un autre souvenir lui revint en mémoire, accompagné d'une autre explication qui lui plaisait davantage. Son petit frère, Johnny, de 3 ans son cadet, n'avait jamais été très doué pour jouer à cache-cache. Très souvent, il se contentait de foncer dans sa chambre et de se glisser sous ses couvertures, convaincu apparemment que s'il ne pouvait pas voir son grand frère, celui-ci ne pouvait pas le voir non plus. Se pouvait-il qu'un homme, qui venait de commettre un meurtre épouvantable, soit victime de la même pensée magique ? Si je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. C'était une logique dingue, certes, mais ce crime était celui d'un dingue. Et cela n'expliquerait pas seulement le comportement de Terry face à Rainwater, cela expliquerait pourquoi il avait cru pouvoir s'en tirer, alors qu'un grand nombre d'habitants de Flint City le connaissaient et qu'il était une vedette chez les amateurs de sport. Mais il y avait Carlton Scowcroft. S'il fermait les yeux, Ralph pouvait presque se représenter Gold en train de souligner au crayon un passage clé de cette déposition et de préparer sa plaidoirie devant les jurés. Peut-être plagierait-il l'avocat d'O.J. Simpson. « Si la main ne rentre pas dans le gant, vous devez prononcer l'acquittement », avait déclaré Johnny Cochrane. La version de Gold, presque aussi accrocheuse, pourrait être « S'il ne savait pas, vous devez le relâcher ». Ça ne marcherait pas. Ça n'avait même aucun rapport, mais... D'après Scowcroft, Maitland avait expliqué la présence de sang sur son visage et ses vêtements en disant qu'un vaisseau de son nez avait éclaté. « Un vrai geyser », avait dit Terry. « Il y a un service d'urgence dans les parages ?» Pourtant, à l'exception de 4 années d'université, Terry Maitland avait vécu à Flint City toute sa vie. Il n'avait pas besoin du panneau situé près de Coniford pour s'orienter. Il n'avait même pas besoin de poser la question. Alors pourquoi l'avait-il fait ? Samuels revint avec un coca, un hamburger enveloppé de papier d'aluminium et un gobelet de café qu'il tendit à Ralph. « Rien de neuf ici ?»« Non. D'après ma montre, il leur reste 20 minutes. Quand ils auront terminé, j'essaierai de convaincre Maitland de nous donner un échantillon d'ADN. » Samuels déballa son hamburger et souleva délicatement le petit pain pour regarder l'intérieur. « Ah, bon sang. On dirait un prélèvement effectué par un médecin légiste sur un grand brûlé. » Ce qui ne l'empêcha pas de mordre dedans. Ralph envisagea d'évoquer la conversation entre Terry et Rainwater et l'étrange question du coach concernant le service des urgences, mais il s'abstint. Il aurait pu souligner que Terry ne s'était pas déguisé et n'avait même pas cherché à se dissimuler derrière des lunettes noires. Mais là encore, il s'abstint. Il avait déjà soulevé ses interrogations et Samuels les avait écartées d'un revers de la main en affirmant, à juste titre, qu'elle ne pesait pas lourd face aux témoignages visuels et aux indices scientifiques accablants. Le café était aussi infect que l'avait prédit Samuels. Mais Ralph le but malgré tout, à petite gorgée. Et le gobelet était presque vide quand Gold sonna pour qu'on lui ouvre. En voyant son expression, Ralph sentit son ventre se nouer. Ce n'était pas de l'inquiétude, ni de la colère, ni cette indignation théâtrale qu'affichaient parfois certains avocats quand ils comprenaient que leur client était dans de sales draps. Non, c'était de la compassion, et elle semblait sincère.
« Oy vey !» dit-il. « J'en connais deux qui vont avoir de gros ennuis.